Provence, tous experts. Corinne Zagara.
Bonjour maître Jean-François Dadois, notre notaire.
Bonjour.
Fidèle au poste, prêt à répondre aux interrogations de nos auditeurs, parce que c'est vrai que cet univers est très large, hein, la fiscalité, l'achat, la vente d'un bien, les héritages, les donations, on ne sait jamais trop par quel bout le prendre. Claude a besoin de vos conseils à Marseille. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Corinne, bonjour maître.
Bienvenue, bonjour. On vous écoute Claude.
Voilà, donc j'ai une tante qui habite Nice, qui a un certain âge, et qui a une maison ici à Marseille. Et cette petite maison, là, des décennies, il n'y a jamais rien qui s'est produit. Et là, à l'espace de 6 mois, elle a été visitée 4 fois. Une fois, sérieusement, les gens sont rentrés et tout. D'autres fois, il y a eu des... Ils n'ont pas pu s'approcher de la maison. Mais le souci qu'il y a, voilà, ça serait de s'en débarrasser. Sachant que ma tante commence à avoir la maladie d'Alzheimer, qui habite à Nice, donc, elle est avec un ami qui est avec elle depuis 30-40 ans. Ils se sont pas paxés, il n'y a rien entre eux. Alors, nous, ce qu'on a comme souci, ce serait de se débarrasser de cette maison. Mais comment faire? Puisque ma tante, en ayant des débuts d'Alzheimer, elle est plus capable d'assurer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire?
Alors, bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, effectivement, le problème qui se pose, c'est que votre tante n'est visiblement plus en mesure de prendre une décision. Il faut donc passer par la justice. Il y a 2 solutions. Une solution un petit peu plus longue, mais qui est parfaitement adaptée à sa situation, puisque dans la durée et dans le temps, il faudra de toute façon passer par une mise sous tutelle. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps.
Qu'est-ce qu'il la demande, la mise sous tutelle?
Alors, ça peut être la famille, bien sûr. Après, une procédure judiciaire, c'est le juge des tutelles qui va prendre la décision. Il faut qu'il y ait 2 avis médicaux, etc. Enfin, il y a une procédure à suivre. Procédure qui prend un petit peu de temps, mais qui permet de protéger sa tante, qui permettra donc de protéger votre tante, pardon. De désigner un tuteur et qui aura vocation à gérer ses biens et prendre les décisions qui s'imposent. Il y a une autre solution qui est un petit peu plus rapide, mais qui ne s'appliquerait que pour la vente. C'est ce qu'on appelle l'habilitation familiale. C'est beaucoup plus rapide. C'est une procédure, là aussi, judiciaire, c'est-à-dire devant le tribunal, qui permet à la famille à se faire autoriser la signature d'un acte. Donc c'est uniquement pour la vente, par exemple. Et c'est donc une procédure qui est beaucoup plus rapide. Si il y a, comme vous semblez l'indiquer, un caractère d'urgence.
Ah oui, parce que je vous dis, c'est intenable. On essaye de lui faire comprendre de vendre cette maison, mais elle ne capte pas. Alors voilà, et les gens à côté.
Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire une habilitation familiale pour pouvoir mettre le bien à la vente et faire. Mais si elle est plus elle-même en mesure de prendre des décisions qui sont là pour la protéger.
Mais qu'est-ce qu'on décide? C'est le médecin ou le juge là, à ce moment-là?
C'est le juge qui prend la décision après avoir eu 2 avis médicaux.
D'accord.
Alors, mais sachant qu'elle est à Nice, comment ça se passerait là? Parce que bon, pour le déplacement.
Eh oui.
Ah ben, c'est le tribunal de Nice qui sera compétent, parce que c'est son domicile. Mais de toute façon, encore une fois, premièrement, la mesure d'urgence, c'est si c'est dans son intérêt, s'il est dans son intérêt de vendre, il faut une habilitation familiale pour pouvoir procéder à la vente. Et de toute façon,
familiale ou judiciaire?
Pardon?
Familiale ou judiciaire?
Les deux.
C'est à la fois familiale et judiciaire.
Ah d'accord.
Cette habilitation sera beaucoup plus rapide à obtenir que la mise sous tutelle, mais qui s'avère également tout à fait nécessaire, puisqu'elle ne sera pas à terme en mesure d'assumer quelques décisions que ce soit, visiblement.
Mmh. Voilà, par contre, ces sous lui reviennent.
Évidemment.
Ah bah évidemment.
Voilà, c'est à elle que ça revient.
Elle reste parfaitement propriétaire. Si elle est mise sous tutelle, c'est le tuteur qui gérera pour elle et qui rendra des comptes au juge des tutelles. Et chaque année, le juge des tutelles vérifie ce qu'on appelle les comptes de tutelle.
Ouais. Voilà. Ça aurait peut-être le coup de prendre rendez-vous avec un notaire, Claudin, qui pourrait vous expliquer tout cela dans le détail, en prenant évidemment le temps de le faire, Claude. On ne peut pas aller au-delà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin des conseils de maître Jean-François Dadois. Bon courage, on vous a dit l'essentiel en tous les cas, Claude, et n'hésitez pas à nous rappeler si vous en avez envie. Bonne journée à Marseille. Georges est à Saint-Cyr-sur-Mer. Bonjour Georges.
Coucou. Oui, bonjour à vous, à toute l'équipe, meilleurs vœux.
Également, Georges. On vous écoute, voilà. Georges, dites-nous.
Voilà, maître. Donc, moi, je dispose d'une maison qui est assez grande. Et avec l'âge maintenant, donc, on voudrait, avec mon épouse, peut-être envisager de la séparer en deux lots. Et on souhaiterait faire bénéficier nos enfants, ma fille et mes petits-enfants. Mmh. Donc, je voudrais savoir comment on peut faire. Est-ce que par le biais d'une société, nous on pourrait rester aussi dans la société et garder l'autre partie. Alors, je voudrais savoir comment si c'est possible et comment doit-on procéder.
Mmh. Alors bonjour. Alors déjà pour diviser la maison, il y a un premier point. Il faut voir dans quelle mesure on peut la diviser. Il y a deux solutions. Soit on peut physiquement la diviser en deux et à ce moment-là, c'est tout à fait envisageable et on fait venir un géomètre expert pour diviser la parcelle en deux et on aura deux références cadastrales différentes si c'est physiquement possible. À défaut, s'il y a une imbrication dans ce cas-là, c'est pas un souci, on procédera par une mise en copro avec la création de deux lots dans cette maison pour que vous puissiez avoir vous un lot et si j'ai bien compris donner le deuxième lot à votre fille ou fille plus petits-enfants.
Oui, voilà.
Alors, c'est tout à fait envisageable. Après, le fait de passer par une société, pourquoi pas? Je mesure pas vraiment l'intérêt de le faire si vous avez l'intention de donner directement le bien. Sachez que vous pouvez même donner la totalité en vous réservant l'usufruit pour pouvoir continuer à avoir l'usage du bien, c'est-à-dire pouvoir y vivre, voire même mettre en location si vous le souhaitiez. Dans ce cas-là, vous donnez la nue propriété. Vous donnez en vous réservant l'usufruit et à votre décès de votre épouse et vous, l'usufruit s'éteint et si vous avez donné la nue propriété à votre fille et ses enfants, ils se retrouveraient pleinement propriétaires sans aucun frais ni aucun droit.
D'accord. Donc dans l'option, on ferait deux lots. Par exemple, nous, on pourrait vendre un de ces lots et s'acheter un appartement, par exemple. Est-ce que ce serait possible, ça?
Bien sûr, si vous distinguez les deux lots, encore une fois, que ce soit par le biais d'un règlement de copropriété, état descriptif de division, ou par une division physique du bien, vous restez propriétaire de votre lot, vous en faites ce que vous voulez. L'autre lot, vous le donnez à votre fille, soit en pleine propriété, soit en vous en réservant l'usufruit.
D'accord, ça c'est possible. D'accord, merci pour ça. Donc, vous voyez, on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Bien voilà, sûr. C'est ça. On a besoin, si on vieillit, on a besoin de moyens supplémentaires pour. Voilà, quoi, c'est ça. Donc, c'est possible, ça, de lui donner en gardant l'usufruit.
Exactement. Exactement, et puis c'est en plus beaucoup plus enfin, on va déduire, quand vous donnez en pleine propriété, si vous donnez un bien qui vaut 100, vous allez calculer les frais sur et toute la fiscalité sur 100. Là, puisque vous vous réservez votre usufruit, ce que vous donnez aura une valeur qui sera moindre, et les frais qui seront donc moins élevés.
Ah, voilà, super.
Ça aussi, d'accord.
Et il y a plein de solutions à votre portée, à vous de choisir, Georges.
Voilà. Oui, ben, rapprochez-vous d'un notaire.
Quoi qu'il en soit, il faudra passer par un notaire. Hein. Vous avez quelques éléments pour
une première idée, quoi. D'accord.
Tout à fait. On est là pour ça.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous.
Embrassez la petite famille aussi, Georges à Saint-Cyr. Retrouvons-nous dans un instant avec notre notaire, Maître Jean-François Dadois. N'hésitez pas, 04 42 38 08 08. Isabelle nous attend ailleurs. À tout de suite.
Tous experts avec les notaires du Sud.
Je suis un garçon. Écoute.
façon, je suis un garçon, Mylène Farmer. Lui aussi, c'est un garçon, et en plus, il est auteur, ce qui ne gâche rien, maître Jean-François Dadois, qui répond à vos questions après quelques messages publicitaires.
Les experts reviennent dans un instant sur France Bleu Provence.
France Bleu Provence vous invite à découvrir les coutumes et la culture japonaise à l'Hôtel de Caumont, l'une des plus importantes collections d'estampes japonaises dans le monde. Tout un mouvement artistique de l'époque d'Edo à travers un nouvel art de vivre. Des images caractéristiques de la vie et de la culture de l'ancien Japon et également des objets d'artisanat de l'époque. Les grands maîtres du Japon, une exposition à voir à l'Hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence. Invitation à gagner sur France Bleu Provence.
France Bleu, partenaire de Peur sur le lac, la nouvelle série événement sur TF1. Après le tueur du lac, Julie Debona et Lannick Gautry reprennent les rôles de Lee Stoker et Clovis Bouvier.
Il semble qu'une souche nouvelle et inconnue du virus Ebola soit entrée sur le territoire.
Ils doivent cette fois faire face à une nouvelle menace inédite. Un virus est en train de se répandre à Annecy.
Le virus va se répandre, ça va être une hécatombe.
Accident, acte volontaire, une course contre la montre s'engage. Peur sur le lac, à partir du jeudi 9 janvier sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr.
Experts de France Bleu Provence pour vous rendre service.
Notre notaire maître Jean-François Dadois et Isabelle qui est ailleurs. Bonjour Isabelle. Merci Bonjour. D'avoir patienté. On vous écoute Isabelle.
Dites-nous. Alors je vais essayer de résumer la situation, d'être assez claire. Mm-hmm. Voilà, j'ai hérité d'une maison de village en montagne mm-hmm. avec donc au rez-de-chaussée et il y a une écurie. Qui appartenait à mes grands-parents. Il y a une écurie avec une servitude perpétuelle établie donc avec le propriétaire de 3,10 m sur 1,55 m. Il se trouve, donc là on est au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a une grange qui m'appartient avec un mur mitoyen avec le propriétaire d'à côté. Il se trouve que la maison se trouve à 600 km hein, dans le Jura. Il se trouve que le propriétaire actuel que je connais depuis que je suis toute petite a construit donc dans ma grange une chaudière en partant du principe que en fait je n'ai que des documents notariés qui indiquent le découpage au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au niveau de l'écurie, donc la servitude, etc. Et concernant la grange, je n'ai aucun document qui atteste que cette partie où il a construit sa chaudière lui appartient. Il part du principe, c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner, on m'a parlé de la notion de copropriété, il part du principe que étant donné que la partie d'en bas du rez-de-chaussée lui appartient, en montant au-dessus, ça lui appartient, pour cette raison qu'il a construit une chaudière au premier étage dans ma grange.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Je vous avoue que j'ai eu du mal à vous suivre, me dites que vous êtes propriétaire du rez-de-chaussée ?
Je suis propriétaire de la maison, hein, j'en ai hérité. Cette maison comprend un étage, en fait, un rez-de-chaussée où se trouve l'écurie.
Vous êtes propriétaire de cette construction. Vous me dites que le voisin prétend être lui propriétaire du rez-de-chaussée et donc...
Non, pas du tout.
On n'a rien compris alors, hein, Isabelle. Est-ce que vous êtes propriétaire entièrement de cette maison ou pas ?
Je suis propriétaire entièrement de la maison. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a au rez-de-chaussée, à l'époque, en 1982, l'ancienne propriétaire a donné une servitude, donc un droit de passage servitude, à mon grand-père. Donc la maison m'appartient maintenant, hein, de mes grands-parents. Comment expliquer ?
Bon, Isabelle, excusez-nous, mais... On comprend pas bien. Je pense que Maître Dadois va vous prendre hors antenne parce que là, on va avoir du mal à trouver une explication rapidement. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre temps. On ne vous laisse pas tomber, Isabelle. On a vos coordonnées. Vous pourrez bien expliquer tranquillement à Maître Dadois qui vous donnera très certainement des réponses. Vous êtes d'accord, Jean-François?
Parce que c'est
un peu délicat. Allez, retrouvons-nous dans un instant. On a un peu perdu de temps, mais c'est pas pour rien quand même. Isabelle, on ne vous oublie pas. Hélène, nous attend à Horizon. À tout de suite.
Tous experts avec les notaires du Sud. Retrouvez nos conseils sur cr-aix-en-provence.notaire.fr.
takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
La nouvelle chanson de Sia sur France Bleu Provence.
Les experts répondent à vos questions en direct sur France Bleu Provence. Au 04 42 38 08 08.
Et ce matin, c'est notre notaire maître Jean-François Dadois qui vous répond. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Coucou à Oraison. Racontez-nous Hélène.
Et voilà, j'ai un appartement à vendre à Marseille et on me propose un crédit vendeur. Je voulais savoir comment ça marche, ce crédit vendeur, les garanties. Et...
Ouais, mode d'emploi.
Alors, maître, bonjour voilà. Hélène. Bonjour. Pour quelle raison votre acquéreur souhaite passer par ce jeu type de vente?
Parce qu'il a l'habitude d'acheter des appartements comme ça en crédit vendeur. Alors, je préfère bien me renseigner avant de...
Oui, vous faites bien parce que je vois pas pour quelle raison vous vous substitueriez à une banque dont c'est le métier de prendre le risque de faire crédit. Il y a aucune raison que vous n'ayez pas, vous, lorsque vous vendez, la totalité du prix. Alors évidemment que c'est encadré, hein, on a des garanties puisque on hypothèque le bien que vous vendez en garantie du remboursement. Mais
oui.
En général, une personne qui ne veut pas passer par un prêt, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de l'obtenir. Et si elle n'est pas en mesure de l'obtenir, c'est pas très rassurant. Alors bien sûr qu'on peut prévoir des garanties, mais le but quand même quand on vend, c'est de pouvoir appréhender la totalité du prix sans avoir de tracas pour le faire.
Donc, mais on a quand même des garanties si on se dit vendeur, non ?
Oui, mais comme je vous dis, bien sûr qu'on peut prendre des garanties, mais si on prend une garantie, ce sera une garantie hypothécaire. C'est quand même des tracas. Moi, je vends un appartement, je préfère encaisser le prix de vente et on n'en parle plus, plutôt que de l'encaisser au fur et à mesure. Et puis, s'il y a des incidents de paiement, avoir un acquéreur qui vous dit « mais oui, mais attendez, je vais vous payer », etc. Mettre en place une saisie immobilière, ça prend du temps, c'est coûteux. Pourquoi autant de tracas? Autant trouver un acquéreur qui peut se faire financer par une banque dont c'est le métier. En 3 mois, c'est réglé. Je ne comprends pas l'intérêt.
C'est très dur à vendre.
Ah ouais, donc
voilà, c'est quartier nord, sur Marseille, donc c'est très dur à vendre.
Ouais, c'est parce que alors, rien n'est
vendable. Il faut calculer après, le bénéfice risque là.
Après, c'est une question de prix. Alors effectivement, si vous le vendez au-dessus du prix, moi ce que je crains, c'est que vous soyez jamais payé. Et vous avez beau me dire que oui, mais s'il y a des garanties, la garantie, c'est une garantie hypothécaire. Si c'est invendable, ça veut dire que la garantie que vous avez, c'est si votre acquéreur vient à ne pas payer ce qu'il vous doit, le bien serait saisi et il serait vendu. Vendu aux enchères, si vous me dites que c'est quelque chose qui est compliqué à vendre, si vous récupérez 3 cacahuètes, c'est avec ça que vous serez garanti, c'est-à-dire pas
donc, c'est pas une très bonne option pour mettre la doigt, hein, Hélène, à vous de voir. Mais renseignez-vous quand même.
Mais je voulais demander, est-ce qu'il faut qu'il verse une, comme vous direz, un bouquet?
Alors, tout est envisageable. En fait, quand on parle de crédit vendeur, c'est ce qu'on appelle une vente à terme, avec paiement, c'est le prix qui est payé à terme. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement payer une partie comptant et une autre partie à terme. Si on a un prix de 100 000 euros, dire je verse 20 000 euros aujourd'hui, et les 80 000 euros seront versés à raison de 10 000 euros par an sur 8 ans ou quelque chose comme ça. Tout est envisageable, mais... Encore une fois, le problème, c'est que, et je me répète, c'est que c'est pas.
Oui, il y a des garanties, mais ce sont pas vraiment des garanties.
Surtout que si le bien est difficile à vendre, la garantie.
On peut avoir de mauvaises surprises. Ouais. Écoutez, Hélène, allez quand même consulter un notaire. C'est gratuit. L'information est gratuite et exposez bien tous les éléments de votre dossier. Mais vous avez bien fait de nous appeler très rapidement. Rose est au puits Saint-Heure et Parade. Bonjour Rose, très rapidement, s'il vous plaît. Coucou Rose.
Entre une rente viagère et une vente normale.
Bon. Maître Danois, réponse.
Dit, bonjour, c'est la différence elle est là. Les deux sont des ventes. La seule différence qui peut exister, c'est que dans la vente en viager, on peut vendre en restant dans le bien, et pas lorsque il s'agit d'une vente simple. Mais la vente en viager rapidement, c'est une vente. On vend avec ou pas l'occupant, et le propriétaire, celui qui achète, sera définitivement propriétaire et en aura la jouissance et cessera de payer la rente viagère au décès du vendeur. Tout ça.
Avec le bouquet au départ, enfin le truc classique. Voilà. Rose, désolée, on a plus beaucoup de temps. J'espère que vous avez eu les informations que vous souhaitiez. Merci beaucoup, ça passe toujours trop vite, hein, Maître Dadois. À bientôt.
Merci de votre accueil.
Salut, à bientôt, Jean-Pierre.